Merci Maïlys, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour et bienvenue dans la compagnie des auteurs, semaine spéciale puisque nous visitons jusqu'à demain des maisons d'écrivains tout au long d'une série proposée par Laurence Genepin, Laurent Travaglichana, Anne-Vanessa Prévost et Didier Pinault, réalisée par Rafik Zénine avec une prise de son de Yves Lehorse. Une semaine commencée donc lundi dernier avec la visite du château de Monte Cristo où nous ont accueillis Claude Schoppe et Frédéric Lurol, respectivement spécialistes de l'écrivain et directrice du château. Semaine qui s'est poursuivie à la maison de Balzac, rue Raynouard à Passy, que nous a fait visiter son directeur Yves Gagneux, après quoi nous avons parlé du Paris de Balzac en studio cette fois avec l'historien Éric Hazan. Enfin demain, nous irons chez Jean Cocteau dans sa maison 2000 La Forêt, sa maison qui est aussi un moulin. Et aujourd'hui, pour parler d'Alphonse Daudet, nous nous rendons dans sa maison de Draveil-Essonne. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose d'entendre le portrait physique qu'avait fait l'écrivain Frédéric Mistral du jeune Daudet. Il est relaté en 1949 par un autre écrivain, Georges Imane Gigandet. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Daudet était joli garçon, brun, d'une pâleur mate, avec des yeux noirs à longs cils qui battaient, une barbe naissante et une chevelure drue si luxuriante qu'elle lui couvrait la nuque, tellement que le duc de Morny, chaque fois que l'auteur des Prunes lui rendait visite au Sénat, lui disait en lui touchant les cheveux de son doigt hautain, « Eh bien, poète, cette perruque, quand la faisons-nous abattre ? La semaine prochaine, monseigneur. » En s'inclinant, répondait le poète. Et le duc tomba plutôt que la crinière de Daudet.
Anne-Simone Dufieff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université d'Angers, spécialiste de la littérature française du 19e siècle, spécialiste d'Alphonse Daudet en particulier, à qui vous aviez consacré votre thèse, qui a paru en 1997 aux éditions Honoré Champion. Elle s'appelle Alphonse Daudet, romancier. Et puis vous avez édité ses œuvres chez Omnibus. Vous avez édité sa correspondance avec Edmond Goncourt chez Drô, ses chroniques dramatiques également. Et puis vous êtes vice-présidente de l'association des Amis d'Alphonse Daudet, qui publie la revue Le Petit Chose et qui organise chaque année un colloque consacré à l'auteur. Alors nous sommes aujourd'hui dans l'ancienne maison Daudet, au 33 de la rue Alphonse Daudet à Draveil, dans l'Essonne. Une maison qu'il s'était offerte à 47 ans avec ses droits d'auteur, donc pas du tout à l'époque du portrait, de l'archive qu'on vient d'entendre. Il avait coupé sa crinière au moment où il avait acheté cette maison, et c'est une maison qui vous appartient aujourd'hui. Isabelle Guignard, bonjour.
Bonjour.
Vous l'avez achetée il y a une trentaine d'années, cette maison ?
C'est ça, oui. Et on savait évidemment que c'était la maison d'Alphonse Daudet. Et
c'est pour ça, peut-être,
pour ça
que vous l'avez acheté, oui.
Pas seulement, mais un petit peu.
C'est votre passion, cette maison ?
En fait, la passion pour Alphonse Daudet est venue par la maison et non l'inverse, pour être honnête. Oui. Et c'est une maison agréable, maison de villégiature, en plusieurs parties, construite à plusieurs époques, près des bois, de la Seine. Donc c'est une maison agréable.
C'est une maison bourgeoise.
Une maison bourgeoise, pas que. Il y a une partie paysanne et une partie bourgeoise. C'est justement ça que je trouve intéressante, avec une petite cour pavée paysanne. Alphonse Daudet, est venu après. Et je trouve que c'est un personnage passionnant, d'une époque passionnante. Et il recevait énormément d'artistes ici, donc ça m'a ouvert à tout ce siècle et toute cette vie littéraire.
Oui, parce que dans un sens, vous avez un peu repris le flambeau de Léon Daudet, puisque vous faites venir ici des artistes, vous organisez des résidences, de la même manière que ici, Daudet faisait venir Maupassant, Mistral, Zola, Proust, Rodin. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes noms, les personnes que vous faites venir, mais il y a le même esprit.
Quand sait-on ? on pourra peut-être penser que c'est des gens, ils seront peut-être aussi connus que ceux que vous avez cités. Donc Daudet aimait beaucoup s'entourer d'artistes, aimait que ce soit un lieu de vie, d'échange. Et nous, on veut faire de cette maison un lieu de vie culturel, artistique et d'échange, plus qu'un musée.
Alors quand il achète cette maison, il a coupé sa crinière. On entendait dans l'archive cette belle crinière de jeunesse. Mais là, il n'est plus tout à fait un jeune homme quand il achète cette maison, Isabelle Guignard.
Eh bien non, puisqu'il y a vécu ici les 11 dernières années de sa vie. Donc il avait 46-47 ans. Peut-être que la crinière n'est pas compatible avec... le prix d'acquisition de la maison.
Ah,
peut-être
une maison
ça.
Très cher.
Ben, pour l'époque, oui, c'est une maison qui coûtait très cher. En plus, on ne lui a pas fait de cadeau parce qu'il a tout payé jusqu'aux moindres boutures. Le tas de ferraille, on l'a valorisé, il l'a payé. Lille était le Parisien ici. Hein. C'est
on
amusant, mais voilà. Et il a payé cher avec ses droits d'auteur. Et donc, peut-être que la crinière n'est pas compatible avec une maison de ce prix.
Alors, Anne-Simone Dufieff, donc ici, beaucoup d'artistes, d'écrivains passés. Il y avait aussi Nadar, le photographe qui a pris cette admirable photo qu'on connaît Daudet, du jeune Daudet, très beau, très élégant.
Effectivement, il était un très beau garçon. Il a été photographié à de nombreuses reprises par Nadar, bien sûr, mais aussi après par Carja. Vous avez de très belles photos. Et à l'époque, il y avait une sorte de pipolisation, puisque on vendait les photos des artistes, des écrivains, des musiciens, des compositeurs, etc. On les vendait dans des boutiques spécialisées. Les gens les achetaient. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé aujourd'hui. Et il y avait même l'épicier Félix Potin a fait des collections de photos. Alors, il y avait des séries, la série des littérateurs, la série, etc., qui étaient donc données en prime aux clients de l'épicerie Félix Potin.
Donc, il y avait des photos de Daudet qui étaient vendues comme ça ?
Données en prime chez Félix Potin.
Ah, données. Alors, Edmond Goncourt est venu aussi. Il y a une rue, d'ailleurs, Edmond Goncourt, ici, à Draveil. Il a planté un tilleul. Je ne sais pas si on le voit ici, par la fenêtre, le tilleul d'Edmond Goncourt.
C'est l'arbre le plus grand que l'on voit. Maintenant, il est devenu immense. Et encore, c'est certainement la repousse du tilleul planté par Goncourt, parce qu'un tilleul, ça pousse vite. Mais là, il est immense, il domine le parc et il embaume.
Alors ici, c'était évidemment un lieu d'inspiration pour Alphonse Daudet. Il y a un certain nombre de ces personnages inspirés, soit par des gens de la région, soit même par des personnes qui venaient ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Isabelle Guignard d'abord et puis ensuite Anne-Simone Dufieff?
Donc sur...
Je crois que par exemple, il y avait le docteur Roufy
oui,
qui était inspiré.
Le docteur Roufy, c'est absolument, oui. On trouve des personnages de la région dans tous ces romans, presque d'ici, mais ils sont... parfois difficile à reconnaître parce que bon, moi je connais pas tous les gens qui étaient là il y a 150 ans, mais le docteur Roufy, oui, c'était le médecin de la région qui était un homme particulièrement bon et qu'on retrouve dans les romans d'Audet à chaque fois qu'il a besoin de quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui, il l'appelle docteur R ou docteur, et à chaque fois ça commence toujours par un R. Et à un moment, il raconte, par exemple, que le docteur Roufy prend sa voiture à cheval et il fait sa tournée. Et quand arrive l'heure, le cheval s'arrête. Le docteur donc comprend, prend sa mallette, descend, continue sa tournée et le cheval rentre à la maison. Et le docteur continue tout seul avec sa mallette. C'est un beau, comment dire, c'est une belle image. Et le docteur Roufy, je crois qu'il avait une allée ici qu'il aimait particulièrement, où il venait. Mais il n'était pas le médecin d'Alphonse Daudet. Il était plutôt un ami. Et quand il est mort, on a demandé à tous les gens de financer une fontaine ici à Draveil. Et Daudet a cotisé pour la fontaine du docteur Roufy. Mmh. Il y a toujours un monument au docteur Roufy à Draveil.
Et Daudet lui-même est mort en 1897, il est mort dans cette maison.
Non, Daudet n'est pas mort dans cette maison, il est mort à Paris, rue de Bellechasse. En revanche, en juillet 96, Edmond Goncourt, qui passait tous les étés un mois chez ses amis Daudet, est mort dans cette maison. Il est mort d'une façon un peu singulière, puisque dans sa maison d'Auteuil, Edmond Goncourt n'avait pas de salle de bain, il se lavait avec un tube, et ici, les Daudet avaient fait installer une salle de bain. Donc il adorait profiter de ce qu'on appelait les bienfaits de l'hydrothérapie. Et il a attrapé froid, il était âgé déjà avec une bronchite importante. Il a attrapé froid en sortant de cette salle de bain. Et ça a dégénéré très rapidement en congestion pulmonaire. Et il est donc mort dans cette maison au deuxième étage où il avait sa chambre habituelle. Voilà.
D'accord. Alors passons à la biographie, si vous le voulez bien, d'Alphonse Daudet, Anne-Simone Dufieff. Il est né à Nîmes le 13 mai 1840.
Oui, absolument. Il est né dans une famille de petits soyeux. Je dis bien petits parce qu'il y avait des grands soyeux, mais ses parents étaient des petits soyeux.
Et au départ, le père d'Alphonse Daudet était même ouvrier et il est devenu...
Il était tartassier et puis il est devenu patron.
Voilà,
une petite industrie. Il a fait faillite assez rapidement avec une dégradation progressive qui va de 1840 à 1848, dont on peut lire les étapes dans le Petit Chaud. Et quand la faillite a été complète, il a essayé de se relancer en s'installant à Lyon. Toute la famille est donc partie à Lyon en 1848. Et de 1848 à 1857, ses affaires, au lieu de s'arranger, se sont dégradées. Ce qui fait qu'on est arrivé là aussi à une ruine complète, qui est arrivée à une diaspora familiale. En 1957, Daudet part et monte à Paris, comme je dis monter parce que c'est l'expression traditionnelle des méridionaux. Donc Daudet part et monte à Paris pour devenir poète et pour gagner sa vie comme homme de lettres et comme artiste. Alors il s'essaye à la poésie, il s'essaye au théâtre, qui sont les deux voies royales de l'époque. La situation est difficile, bien évidemment, pour un jeune artiste, il n'y a pas encore de résidence d'artiste, donc mais il a la chance de trouver une place de secrétaire chez le duc de Morny, qui à l'époque est président du conseil législatif. Donc c'est une sinécure d'homme de lettres. Le duc est chauve, vous l'avez évoqué au début de l'entretien, donc la seule chose qu'il demande à Alphonse Daudet, c'est de se faire couper les cheveux, mais c'est plus sérieusement de l'aider à écrire des poèmes et des petites pièces, parce que le duc de Morny, sous des pseudonymes, est l'auteur de livrets d'opérettes et d'opéras comiques.
Alors, je propose qu'on revienne à l'enfance d'Alphonse Daudet, qu'en effet on arrive à saisir en écoutant le Petit Chose. Je dis écouter parce que j'ai un extrait justement à vous faire écouter.
Quand le Petit Chose se trouva seul dans cette chambre froide, devant ce lit d'auberge inconnu et banal, loin de ceux qu'il aimait, son cœur éclata, et ce grand philosophe pleura comme un enfant. La ville épouvantait à présent. Il se sentait faible et désarmé devant elle, et il pleurait. Tout à coup, au milieu de ses larmes, l'image des siens passa devant ses yeux. Il vit la maison déserte, la famille dispersée, la mère ici, le père là-bas, plus de toit, plus de foyer. Et alors, oubliant sa propre détresse pour ne songer qu'à la misère commune, le Petit Chose prit une grande et belle résolution, celle de reconstituer la maison Essette et de reconstruire le foyer à lui tout seul. Puis, fier d'avoir trouvé ce noble but à sa vie, il essuya ses larmes indignes d'un homme, d'un reconstructeur de foyer, et sans perdre une minute, entama la lecture du règlement de Monsieur Viaud pour se mettre au courant de ses nouveaux devoirs.
Alors Anne-Simone Dufieff, on pourrait finalement raconter la jeunesse de Daudet, rien qu'en reprenant le personnage du Petit Chose.
Alors oui et non. Le Petit Chose est une reconstruction biographique par un homme encore jeune, puisque le Petit Chose, ça fait 150 ans, cette année ce sont les 150 ans du Petit Chose. Donc en 69, il a 29 ans, la petite trentaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas encore sorti d'affaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore le mari de Julia Daudet, où il vient à peine de se marier. Et au fond, il est très incertain sur son avenir encore, parce que tout ce qu'il a fait n'a pas eu beaucoup de succès. Ni les Lettres de Montmoulin, qui ont eu très peu de succès, ni son théâtre, ni sa poésie, ni les amoureuses. Succès d'estime, mais pas de succès qui permettent de vivre. Donc c'est encore une situation très délicate. Et effectivement, ce qui est vrai dans la vie du Petit Chose, c'est la détresse familiale d'une famille qui s'était hissé à la bourgeoisie et qui dégringole. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de déclassement. Hein. C'est pas l'ascenseur social, c'est au contraire le descenseur. Il est en train de descendre et ça, c'est douloureux.
Oui, parce qu'Alphonse Daudet naît dans une très belle maison de Nîmes. Et puis, comme on le lit quand même dans Le Petit Chose, la fabrique familiale périclite. Lui est très content en tant qu'enfant parce que finalement, il joue dans la fabrique familiale. Ça devient son domaine. Il n'y a plus d'ouvriers. Elle est quasiment en ruine, et il faut à un moment donné partir à Lyon. Et il raconte ce voyage qui est un voyage très émerveillé en bateau sur le Rhône pour aller jusqu'à Lyon. Anne-Simone Dufieff.
Oui, Daudet est diplopique comme beaucoup de gens, hein, donc c'est-à-dire qu'il voit toujours deux côtés. Donc il est à la fois en train de voir la tristesse et la misère de la famille, mais il voit aussi, il découvre aussi la beauté de l'eau. Et l'eau est un élément qui va fasciner Daudet, et cette première découverte de la navigation dans la rivière, il s'embarque à Arles et puis il monte d'Arles à Lyon, c'est effectivement un éblouissement, et ça je trouve que c'est très très bien raconté effectivement dans Le Petit Chose, et c'est certainement très authentique comme un souvenir et comme impression, comme sensation de départ.
Alors évidemment il arrive à Lyon. Et là, Lyon, ça n'est pas la belle ville florentine qu'on connaît aujourd'hui. C'est une ville très sale, très noire, et c'est le désenchantement pour ce jeune garçon.
Oui, je pense que déjà, bon, si vous voulez, il y a une théorie des climats. Pour un méridional habitué à l'éclatant soleil nîmois, l'arrivée dans les brumes lyonnaises, c'est quelque chose de différent. Il y a aussi le problème de la langue. Il y a un passage dans Le Petit Chose où la bonne qui fait les courses, la bonne à nous, ne comprend pas parce qu'elle n'est pas comprise au marché. Et quand elle demande un morceau de viande, de la carbonade, le boucher lui rit au nez. Je crois que à l'époque, il y a aussi, si vous voulez, ce dépaysement. Il y a pas de lissage. Donc il faut s'habituer à un nouveau climat, il faut s'habituer à une misère affirmée, il faut s'habituer à beaucoup de choses fort désagréables. L'expérience scolaire est une expérience négative. Bon, il a une bourse pour aller au lycée parce qu'il obtient une bourse par le souvenir d'un vieil oncle qui avait été recteur. Donc, il obtient une bourse, mais il n'est pas habillé comme les gandins qui fréquentent le lycée.
Ah non, il a une blouse, et ça pose un problème parce que c'est le seul à avoir une blouse.
Voilà, alors la blouse, elle est métonymique de la misère. Il a l'air d'un pauvre, peut-être que des expériences de boursier. Je pense que si Le Petit Chose a eu autant de succès sous la Troisième République, c'est parce que justement, certainement, cette expérience du boursier entrant dans un univers qui n'est pas le sien et y travaillant dur hein, pour s'affirmer, ça c'est une expérience qui est très forte aussi.
Isabelle Guignard, vous vous souvenez de votre première lecture du Petit Chose ?
Oui, oui et non. C'est-à-dire que j'ai commencé et je n'ai pas fini. En fait, j'ai plus découvert Alphonse Daudet ou ce beau côté avec La Maison. C'est quand j'étais petite, en fait, c'est pas Le Petit Chose qu'on m'avait lu, c'est La Chèvre de Monsieur Seguin.
Oui.
Et je pense que je ne dois pas être toute seule à avoir pleuré devant mes camarades avec la honte à la fin de La Chèvre de Monsieur Seguin. Donc, moi, a priori, je n'aimais pas Alphonse Daudet. Bon, après, je suis devenue un peu plus raisonnable. Et évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'aimer les lettres de Montmoulin, puis les contes du lundi, puis etc. Mais Le Petit Chose, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Et en fait, il ne m'a intéressée que quand je me suis intéressée à Alphonse Daudet et que j'ai reconnu et recherché des passages autobiographiques.
Donc à travers cette maison,
voilà,
Alphonse Daudet que vous avez.
C'est plus comme ça.
Coup,
donc ma première
acheté,
lecture,
ouais.
C'est.
Ouais. Alors, pour terminer sur Le Petit Chose, peut-être Anne-Simone Dufieff, c'est un livre qui nous donne aussi des indications sur la période où il était pion, parce que son père, n'arrivant pas à faire vivre la famille, à un moment donné, il faut que Alphonse Daudet travaille. Et donc, dans Le Petit Chose, on a, et on l'entendait d'ailleurs dans l'extrait, cette relation de ce moment-là, où il était pion dans un lycée, c'est ça ?
Oui, alors, la famille est une diaspora, son frère aîné part à Paris, sa mère et sa sœur sont retournées à Nîmes, où elles sont accueillies ce qui leur reste des familles nîmoises, et son père devient voyageur représentant placier pour placer du vin de Loire, ou du vin du Rhône dans l'ouest de la France. Donc, là, et lui, il est placé comme donc, surveillant d'internat. Alors, cette expérience est extrêmement dans le petit chose, elle est décrite comme un véritable martyr. Hein. D'ailleurs, il y a un des chapitres qui s'appelle Pyrrhon le martyr.
On se demande pourquoi il était martyrisé comme ça par les élèves, pourquoi il était chahuté, parce que ça a l'air d'être quand même une forte personnalité, Alphonse Daudet.
Il a 16 ans et demi. C'est peut-être, est-ce une bonne raison? Il est extrêmement, peut-être, inexpérimenté. Je ne pense pas que c'est jamais été quelqu'un qui ait pu faire régner l'ordre et la discipline. C'est d'ailleurs la lecture que vous avez donnée du règlement de Monsieur Viau est véritablement au contraire à tout ce qu'on peut savoir sur le côté libertaire, fantaisiste d'Alphonse Daudet. Il est extrêmement indiscipliné par nature. Il se sent en prison dans ce collège d'Alès. Alors, en même temps, il ne faut pas non plus voir dans le petit chose un récit véridique de l'expérience d'Alès. Il y a beaucoup de textes montrent qu'il a bien exagéré beaucoup de choses, que par exemple, il est parti en vacances, qu'il est parti chez ses cousines dans un petit château au lieu de rester enfermé dans l'école tout seul.
Bon, ah oui, mais il voulait être le Dickens français. En tout cas, on l'a appelé le Dickens français, donc pour ça, il fallait peut-être faire pleurer aussi un petit peu.
Pas forcément, il fait pleurer, mais si vous lisez le petit chose et la version pour adultes, pas la version pour enfants de Hetzel, vous serez sensible au comique des situations. Donc, chez Daudet, on va très vite du rire aux larmes, puisque, et même vis-à-vis de son personnage central, le petit chose n'est pas constamment apitoyant. Il est souvent ridicule. Mmh. Quand ce philosophe, ce grand philosophe, qui ne sait pas faire grand-chose d'autre qu'écrire des lettres d'amour pour le maître d'armes, il n'est pas dans une position qui attire uniquement la sympathie.
Mmh. Ce personnage, c'est le jeune Daniel Esset.
C'est le jeune Daniel Esset. Mmh. Il est Daniel Esset. D'ailleurs, il y a une très grande ambiguïté dans l'incipit. Il appelle ça une espèce d'autobiographie. Donc, vous avez un mélange du je et du il constamment. Les narratologues s'amusent beaucoup, d'ailleurs, à étudier ces relais de narration, ce qu'on appelle des relais de narration. Donc, quand dit-il je, quand dit-il il? De lui-même, il dit il est le petit chose, Daniel, il, je. Vous avez toutes les possibilités qui se mélangent.
Et il est peut-être je quand il parle de la relation entre Daniel Esset et l'abbé Germaine, parce que l'abbé Germaine, c'est peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, Anne-Simone Dufieff, un fantasme, une projection de ce qu'aurait pu être son père pour Alphonse Daudet.
Oui, alors là, vous touchez un élément important, effectivement. Daudet manque d'une figure paternelle. Vincent Daudet, son père, est un homme qui va d'échec en échec, hein, et qui, en plus de cela, est un homme qui est extrêmement colérique. Alors, il est fort possible que le jeune enfant ait eu la nostalgie d'une figure paternelle, forte, paisible, etc. Et en ce sens, l'abbé Germaine est effectivement un père idéal.
Mmh. Donc c'est un roman à clé, alors?
Ah oui, tous les romans de Daudet sont des romans à clé. Il avait l'habitude de dire « je ne parle que d'après nature ». D'après nature, ça veut dire dans des romans à clé. Tout à l'heure, on parlait des personnages de Champrosay et des environs. Lorsqu'il se marie avec Julia Allard, elle, a des racines familiales à Champrosay. Et des personnages donc qui entrent, par exemple, dans l'un de ses premiers romans, qui est son premier roman, après le petit chose qui est Froment Jeune et Iris l'Araignée, eh bien une partie se déroule dans le château de Vigneux et le grand-père, donc Gardinois, hein, le grand-père de Julia Allard, donc, est une des figures, et il le dit dans son histoire de mes livres, il dit « ah ben oui, j'ai fait de la peine à quelqu'un qui m'aimait et qui, en le mettant dans un de mes livres, mais je n'arrive pas à m'empêcher de fourrer dans mes livres les gens que je connais.
» Il y a aussi dans le petit chose le désir d'écrire. Et ça, alors c'est transposé évidemment, mais il faut se souvenir que c'est quand même un des premiers livres de Daudet, et donc il raconte, c'est très frais encore pour lui, ce désir d'écrire qui est monté en lui quand il était adolescent, jeune homme. Est-ce que c'était évident dans ce milieu-là de faire ce métier-là? Quel a été le cheminement finalement vers l'écriture?
Alors, je pense que ça n'a pas été évident dans ce milieu-là, parce qu'il dit lui-même « moi, j'étais le grain de folie, j'étais l'artiste », alors qu'il y avait dans un milieu désespérément bourgeois. Mmh. Alors, je pense que ça s'est imposé à lui d'une façon très forte et sans doute assez précocement. Son frère Ernest, dans « Mon frère et moi », évoque les essais d'écriture de son frère vers l'âge de 11 ans, ce qui quand même est une vocation précoce. Et je pense que vous avez raison, Le Petit Chose est une autobiographie d'artiste, et comme toutes les autobiographies d'artistes, il comporte ce qu'on appelle classiquement un récit de vocation. Comment, moi, je suis devenue artiste et comment je me suis mis à écrire. Alors, vous remarquerez que mais quelque chose de biaisé, d'assez pervers dans Le Petit Chose, puisque si c'est un récit de vocation, c'est aussi un adieu aux muses. Puisque ce malheureux poète, sa seule œuvre publiée à compte d'auteur, va terminer en feuille de coquetier, en feuille de papier pour emballer les coquetiers qu'on envoie à Madagascar. À la fin du livre, il a épousé Mademoiselle Lalouette et son beau-père lui dit « Qu'est-ce qu'on fait de tous ces livres qui traînent dans la cave ? Il faudrait qu'on en fasse quelque chose d'utile. Est-ce que ça vous ennuierait qu'on les déchire et qu'on en fasse des emballages de coquetiers ?» Donc non, on fait des emballages de coquetiers. Et donc, tout ça, ça part. Et je pense que Edmond Rostand, dans Cyrano de Bergerac, avec, vous vous rappelez, de Ragnaud, de la femme de Ragnaud qui veut emballer, qui veut faire des cornets avec les feuilles des poésies pour emballer les gâteaux qui sont donnés, il a bien lu Le Petit Chose. On est donc à la fois dans un récit de vocation, comment je suis devenu poète, et dans un déni de la vocation, comment j'ai fait mon adieu aux muses, comment je ne suis plus poète. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on est en 69, et il va y avoir une sorte il va le redémarrer, et il va redémarrer, dans un premier temps, essentiellement comme romancier et comme auteur dramatique.
Alors, vous nous avez raconté, Anne-Simone Dufief, l'arrivée à Paris. On reprend la biographie un petit peu dans le désordre, mais il faut peut-être revenir sur ses premières années parisiennes où, il n'a pas beaucoup d'argent avant de rencontrer le duc de Morny, qui va finalement lui permettre d'avoir une vie relativement agréable. Mais il faut signaler quand même que ces années parisiennes, c'est d'abord des années où on s'amuse beaucoup, voit beaucoup de femmes, et peut-être que cela va être à l'origine de la grande tragédie d'Odé, qui est la syphilis. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'atmosphère de ses premières années? Il a juste 20 ans à ce moment-là.
Oui, alors il arrive à Paris, donc, où il retrouve son frère. Il est très désireux d'aller dans le monde, de sortir, de voir le plus grand nombre de gens possible. Et il faut comprendre que Daudet est un, je dirais pas un érotomane, parce que ce serait tout à fait abusif, mais Daudet est quelqu'un qui a le goût des femmes d'une façon extrêmement violente. Et il va donc avoir un très très grand nombre d'aventures sentimentales, amoureuses, qui peuvent être soit des passades, soit des aventures un petit peu plus durables. Dans les passades, il y a toutes celles qu'on ne connaît pas, évidemment, mais c'est sans doute... il a prétendu qu'il avait été contaminé, qu'il avait eu la vérole par une lectrice de l'impératrice Eugénie. Bon, c'est très chic, c'est peut-être... Est-ce que c'est quelqu'un de beaucoup plus modeste qui lui a fait ce fatal cadeau? À l'époque, on ne sait pas soigner la syphilis, ou du moins on pense...
On la soigne avec du mercure et des choses qui...
On pense qu'on la blanchit avec du mercure, on cautérise, mais en fait, le tréponème continue à travailler. Et chez Daudet, ce tréponème s'est porté sur la moelle épinière en déclenchant 20 ans plus tard un tabès, qui est une maladie extrêmement douloureuse. Elle est mortelle et elle présente la particularité d'être excessivement douloureuse, ce que ne sont pas habituellement les paralysies. Là, il n'a pas de chance, qu'il a double peine, si je puis dire. C'est évidemment de la même maladie que sont morts Jules de Goncourt, Baudelaire.
C'était la maladie des écrivains de l'époque.
C'était la maladie des gens qui menaient la vie de bohème, mais qui finalement avait des passades multiples et des liaisons multiples. Oui. Alors il avait aussi des liaisons plus fixes. Il a vécu en ménage pendant presque 10 ans avec une ancienne modèle, vous parliez de Nadar tout à l'heure, qui a posé pour Nadar et pour beaucoup beaucoup d'autres peintres et sculpteurs de l'époque. Et donc cette modèle était de 20 ans plus âgée que lui, et ils ont eu une liaison très passionnelle. Lui était totalement infidèle, elle était au contraire d'une fidélité, d'un accrochage exemplaire. Et il a raconté cet épisode de sa vie dans un roman, vous parliez de roman à clé, qui s'appelle Sappho, et qui a été considéré à l'époque, enfin dans la vie de Daudet, comme l'œuvre de Daudet à son temps, à son époque, comme son plus grand roman et son chef-d'œuvre.
Mais ce qui va vraiment le sauver de la bohème, entre guillemets, c'est son mariage avec Julia Allard, dont vous avez déjà parlé. Donc, cette fille d'industriel du Marais, c'est en janvier 1869. C'est même son ami, Frédéric Mistral, qui dira que le mariage l'a sauvé. Mais avant de se marier, il va quand même faire un voyage. Il va d'abord aller à Marseille sur un navire qui s'appelle le Zouave, mm-hmm. et s'embarquer comme ça. Alors, pour la Corse d'abord ?
Alors en fait, non pas pour la Corse, non, c'est un autre voyage, la Corse. Il était donc syphilitique, mais il avait aussi des symptômes pré-tuberculeux qui correspondaient à une vie de misère, qui était quand même largement la vie qu'il avait menée à Paris. Donc l'un des remèdes qu'on préconisait, c'était le soleil. Alors, pour échapper aux hivers trop rudes de nos régions du Nord. Donc, le duc de Morny lui avait donné un congé et il décide donc de descendre à Nîmes dans sa famille pour... Il dit qu'il va se calfater les poumons au soleil. Hein. Donc, et quand il arrive à Nîmes, il rencontre un cousin qui est un monsieur Henri Reynaud qui habite Montfrin et qui est un grand chasseur. Hein. On le surnommait Lucas Ayres, ce qui en provençal veut dire le chasseur, et qui avait très envie d'aller chasser le gros gibier. Alors le gros gibier à l'époque c'était en Algérie. Hein. Et donc il n'avait pas envie de partir seul. Et ce jeune cousin qui arrive, c'est une aubaine. Il lui dit, écoute, si tu veux...
Je te paye tout le voyage et tu viens avec moi.
Mmh. Et donc, c'est comme ça que Daudet part en Algérie, où il passe 3 semaines, à peu près, un petit mois, en hiver 61.
Et donc, cet intérêt pour les voyages, il va y avoir aussi un intérêt pour l'Orient, un peu comme Flaubert. Est-ce qu'on le retrouve dans les romans
Vous le retrouvez, bien sûr, dans Tartarin de Tarascon, et vous le retrouvez aussi... Alors, vous le retrouvez dans Sappho, où on a un passage qui évoque très précisément les fêtes d'Alger, lors d'une visite de l'empereur Napoléon III à Alger. Et puis, vous le retrouvez également dans un roman qui s'appelle Le Nabab, dans lequel l'Algérie est transposée en Tunisie, et où vous avez effectivement des éléments. Et puis, vous avez bien sûr des lettres de Montmoulin qui. Il y a un cycle algérien, dans les lettres de Montmoulin. Et puis, sinon, vous le retrouvez aussi dans Les Contes du Lundi.
Isabelle Guignard, ici, la maison de Draveil, elle est achetée aussi en raison de la tuberculose, j'imagine, parce que on disait qu'à l'époque, Draveil, c'était un endroit où l'air était très pur et où on pouvait finalement se soigner en venant en villégiature ici.
Oui, à l'époque, c'était renommé pour, et on a beaucoup d'hôpitaux ici et de maisons... pour les jeunes filles qui avaient des problèmes de ce genre, oui, oui.
Donc il a beaucoup vécu ici, mais on l'associe quand même toujours au midi de la France. Et je vous propose d'écouter à ce sujet une archive.
Une des séductions d'Alphonse Daudet, pour moi en tout cas, vient en partie, je considère que c'est un très bel écrivain, mais vient en partie aussi de la découverte de l'accent méridional. C'est en effet à cause d'Alphonse Daudet que j'ai apprécié, et toute ma vie, et encore maintenant, encore qu'on ait le sentiment qu'on l'entende un peu moins qu'autrefois, mais cet accent qui apporte tellement de joie, de bonheur. Et je crois que c'est certainement l'écrivain qui a le mieux, avec Pagnol bien sûr, donné ses lettres de noblesse à l'accent du Midi. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que les mots les plus grossiers, dits avec l'accent du Midi, deviennent beaucoup moins grossiers. Par exemple, je m'excuse, mais le mot « couillon », là, au fond, c'est pas très grave. Si on entend quelqu'un dire « couillon », ben, c'est pas grave. Alors que c'est quand même désagréable si on le dit sans accent.
Voilà, c'était cette archive de François Perrier. Alors, ce Midi de la France, c'est vrai que c'est un marqueur de la vie de Daudet. Il est entré dans l'histoire vraiment comme un écrivain du Sud, Anne-Simone Dufieff. Ah,
alors,
ou pas.
Oui, bien sûr, il est écrivain du Midi, il se réclame du Midi et il affirme sa méridionalité de plus en plus. C'est-à-dire que si en arrivant à Paris, bah, ses premières œuvres ne sont pas particulièrement méridionales, c'est avec la rencontre de Frédéric Mistral en 1859, qui vient à Paris chercher son prix de l'Académie française. À ce moment-là, Daudé comprend qu'au fond, ça n'est pas la peine d'être totalement parisien et en parisianisé, et qu'on peut parfaitement aussi chanter le pays natal. Hein. Donc, à ce moment-là, il va se lier d'amitié avec Frédéric Mistral. Il va aller voir Frédéric Mistral dans le Midi. Frédéric Mistral va lui présenter les Fées Libres, qui sont à ce moment-là une bande de joyeux lurons, avec qui ils font des escapades à Avignon, sur l'île de la Barthelasse et dans d'autres endroits où on voit beaucoup de vins de Châteauneuf du Pape, où on chante des poésies et on chante la beauté des femmes. Donc tout ça, ça lui plaît beaucoup. Et il se rend compte qu'il n'y a pas d'incompatibilité à être à la fois un écrivain et un écrivain méridional. Alors, je dirais que globalement quand même, son œuvre entière, vous avez peut-être autant de pages parisiennes ou île-de-franciennes que de pages méridionales. Mais bien sûr, et François Perrier a raison, ce sont les pages méridionales qui, aujourd'hui, nous parlent le plus, pour des raisons qui sont doubles, je dirais. Il y a une série de raisons qui n'existent plus, qui est peut-être ce qu'on appelait la théorie des climats, dans laquelle Daudé se plaisait à opposer France du Nord et France du Sud, soit pour valoriser l'une par rapport à l'autre, soit pour montrer qu'on pouvait faire une synthèse de l'une et de l'autre. Et puis, donc ça, c'est une première série de raisons, donc avec cette théorie des climats, vous savez, vous connaissez Taine, le moment, la race, le milieu. Donc ça, c'est un élément important qui éclaire, par exemple, un roman qui était un des romans préférés de Daudé lui-même, qui est Numarum Estant. Et puis alors, l'autre élément, c'est un élément scolaire. Assez rapidement, les lettres de Montmoulin, bien qu'elles ne soient pas destinées à un public enfantin au départ, et d'ailleurs la chef de M. Seguin terrifie les enfants, elles ont très tôt pénétré le public scolaire sous forme de lecture choisie, sous forme de dictée, sous forme de cinéma avec Pagnol que François Perrier évoquait. Hein. Donc à ce moment-là, le goût du Midi est arrivé. Et c'est très important parce que c'est une politique de la Troisième République que je dirais hexagonale, qui consiste à faire une place à toutes les régions dans une identité. On parle beaucoup de crise identitaire. La Troisième République construit l'identité française, hein, ou du moins reconstruit l'identité française post-révolutionnaire, et elle le fait en accordant une place à chaque région et en écrasant en même temps les spécificités. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'était un petit peu délicat, parce que parler de la Provence en français, parler de la Bretagne en français, c'est aussi refuser l'expression dans la langue originelle. Hein.
Mais alors précisément, comment est-il considéré à ce moment-là dans le Midi ? Parce que Frédéric Mistral, avec qui ils resteront amis, a été bien gentil de ne pas se vexer, finalement, de la peinture assez satirique que Daudé faisait des gens du Midi. Et peut-être que dans ce sud de la France, on pouvait trouver caricatural la manière dont on était présenté dans les romans de Daudé.
Alors bien sûr, dans une lettre à Mistral, il lui explique, tu vois Mistral, il y a deux midis, il y a le Midi comique et le Midi tragique. Je veux les mettre ensemble dans le même livre, il y a le Midi de l'Arlésienne et il y a le Midi de Tartarin de Tarascon. Si vous lisez l'Arlésienne, vous apercevrez que les méridionaux ne sont pas du tout représentés sous une forme caricaturale. Donc il y a, si vous voulez, deux inspirations, deux veines d'inspiration chez Daudé, qui ne s'expriment d'ailleurs pas uniquement vis-à-vis du Midi. Une veine satirique et une veine lyrique, dirais-je, hein, lyrique par rapport à Mistral. Donc et aussi presque d'un lyrisme agricole, enfin pas agricole, comme les, enfin vous voyez, comme les géorgiques, vous voyez, ce type de lyrisme.
Très lié à la nature,
très
en tous
lié
les cas.
À la nature, très lié à la nature et aux travaux des champs. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément. Daudé explique aux méridionaux que finalement, ce qu'il vise, c'est les mauvais méridionaux, c'est-à-dire ceux qui singent Paris. C'est ce qu'il appelle le Midi de cercle et qu'il oppose au vrai Midi. Le vrai Midi, c'est le Midi des paysans, c'est le Midi de la pureté paysanne, des coutumes, etc. Et le faux Midi, c'est le Midi de la petite ville. Vous remarquerez que dans Tartarin, c'est vraiment la petite ville. La petite ville un peu ridicule qui singe Paris, qui au lieu de dire pécaire, dit peu cher. Hein. Donc là, on est sur cette idée. Alors ça, c'est un premier élément qui est important. Et puis, il y a quand même un deuxième élément qui est non moins important, c'est que Daudet va être fâché avec un certain nombre de méridionaux. D'abord parce qu'il s'en est moqué, c'est la fameuse histoire où il dit « les méridionaux voulaient monter à Paris pour me lyncher », enfin le mot « lyncher » n'est pas utilisé, mais c'est la même chose. Hein. Et puis il y a surtout le problème de la querelle du séparatisme. À partir du moment où le Félibrige devient à des tendances séparatistes. Daudet, qui lui est devenu, après la guerre de 70, extrêmement patriote au sens français hexagonal du terme, va finalement refuser cette idée d'un séparatisme, d'un régionalisme qui serait finalement, qui prendrait une autonomie par rapport à Paris. Alors à ce moment-là, il va avoir des problèmes, au point que Maurras et Amoretti, au banquet de Tarascon en 1894, font porter un toast à la mort de Daudet. Ce qui est quand même fort. Hein.
C'est même violent.
C'est même violent. Parce que c'est quand même public. Un banquet public où on boit la mort de quelqu'un qui en plus est en mauvais état, en mauvaise santé physiquement, ça ne lui a pas plu du tout. Donc il a écrit d'ailleurs à Mistral une lettre furieuse en lui disant « Je sais que ce n'est pas toi, mais tu étais présent et tu as accepté qu'on boive ma mort, c'est pas assez, ça ne va pas. Il est très mécontent. »
Alors vous avez évoqué, Anne-Simone Dufieff, le moment de la guerre de 68 et la Commune, qui est un moment important pour Daudet. Il faut dire d'abord qu'il connaissait Gambetta.
Oui, alors il avait rencontré Gambetta pendant ses années de Bohème à la table d'hôte de l'hôtel du Sénat. Hein. Le mot est pompeux, mais l'hôtel du Sénat, c'est un hôtel assez minable, où Gambetta allait aussi, mais Gambetta est au premier étage et Daudet au dernier étage. C'est déjà que Gambetta avait quand même sa tante qui lui fournissait des fonds que la famille Daudet ne fournissait pas à Ernest et Alphonse. Donc il l'avait connu. Quand il avait servi le duc de Morandi, il n'avait pas de conviction politique réelle. Bon, sa famille était légitimiste. Quand il arrive chez Morny, qui est donc le demi-frère de Napoléon III, il est un peu gêné et il se dit, il faut que je lui dise que je suis légitimiste. Alors il lui dit, mais Monseigneur, je dois vous dire, je suis légitimiste. Et Morny lui dit, dans une pirouette, ça n'est pas grave, l'impératrice est encore plus que vous. Ouais. Donc bon, après la guerre de...
Enfin, 60... politiquement, ça le définit quand même un petit peu, cette tradition légitimiste.
Oui, il a... Il est très très enfin très indifférent à la chose politique au fond. Il a même une véritable haine du combat politique. Enfin une véritable, j'exagère, une véritable animosité vis-à-vis du combat politique. Il écrit dans un des contes du lundi, politique, je te hais. J'ai vu des gens qui riaient à l'échec de notre troupes à Richthofen. J'en ai vu d'autres qui se réjouissaient quand l'empire a été déchu. C'est quelque chose qui divise les familles. C'est quelque chose qui fait que les gens se battent les uns contre les autres. Je hais la politique. Et il s'est tenu à l'écart au maximum de tout ce qui était la vie politique. Et je pense que dans Les Rois en exil, par exemple, il évoque l'enfance d'un légitimiste à Nîmes et les gens qui se battaient, les enfants qui se battaient en se lançant des cailloux entre légitimistes et au contraire, on disait pas républicain à l'époque, mais disons gens avancés. Donc je pense qu'il a vraiment pas du tout de conviction.
Enfin, il voit pas la Commune quand même d'un très bon œil.
Revenons à la guerre de 70. Pendant la guerre de 70, lui, il dit drôlement de lui, mais poussé un instinct que j'avais pas, qui est l'instinct patriotique. Donc il est à Champrosay, il se casse la jambe, ça dure. Les 45 jours d'une fracture, il rentre à Paris. À ce moment-là, il s'engage dans la garde municipale. Il avait été réformé de toute activité militaire parce qu'il était excessivement myope. Donc, il s'engage dans la garde nationale, hein, qui est la garde municipale au rempart. Il reste à Paris pendant toute la durée du siège.
Et, donc, il observe, va dans les rues.
Absolument,
il prend des notes.
Il va dans les rues. Et je pense que l'un des meilleurs témoignages sur le... témoignage vraiment immédiat sur les violences de la guerre de 70, sur le siège de Paris et sur la Commune, vous les trouvez dans les comptes du lundi et dans les lettres à un absent. Qui sont des pourquoi les comptes du lundi? Parce que ça paraissait tous les lundis. Donc vous avez, dans la presse, donc vous avez, si vous voulez, quelque chose qui est presque immédiat comme témoignage, alors qu'après les témoignages vont être très reconstitués. Alors, en ce qui concerne la Commune, bien évidemment, il est comme pratiquement tous les écrivains de son temps et tous les gens qui peuvent frotter pour lire, il est terrifié par la Commune et il est évidemment très hostile à la Commune. Et d'ailleurs, il part avant la semaine sanglante parce que, justement, il ne veut pas rester. Parce que à ce moment-là, c'est le moment où la Commune décide d'embrigader tous les hommes valides. Donc, il part pour ne pas être embrigadé. Donc, il condamne la Commune et il condamnera tout aussi violemment la répression versaillaise. française.
Alors, il se moque quand même des chefs de la commune qu'il traite de, je cite, « tête de pion, collet crasseux, cheveux luisants, les toqués, les éleveurs d'escargots, les sauveurs du peuple, tous les mécontents, les déclassés, les tristes, les traînards, les incapables ». C'est dans cette fameuse lettre à un absent que vous évoquiez à l'instant, Anne-Simone Dufief.
Oui. Absolument. Oui, bah, y a une... la veine satirique s'exerce contre les communards, bien évidemment.
Lui, il est ouvrier de par sa famille, d'une tradition ouvrière, au moins par son grand-père, mais il semble regarder les ouvriers de la commune avec un œil assez peu amène tout de même.
Alors, il n'a pas un œil amène vis-à-vis des ouvriers de la commune, mais je dirais qu'il a un œil encore moins amène vis-à-vis des demi-intellectuels. Parce que quand il évoque les pions, on est véritablement sur ces gens. À un moment, vous ne vous citez pas, il y a des passages encore beaucoup plus terribles où il parle, où il dit que ce sont vraiment des métisses. Hein, il évoque Toussaint Louverture en disant finalement La révolte de la commune ressemble à la révolte de Toussaint Louverture à Saint-Domingue. Donc, vous voyez, on est sur cette idée de gens qui sont à moitié cultivés, et c'est le fait qu'ils soient que à moitié cultivés leur permet pas d'avoir une parole légitime. Donc, il y a véritablement une hostilité à la commune. En ce qui concerne le Gambetta, je vous parlais tout à l'heure de Gambetta, il a violemment attaqué Gambetta dans ses mêmes lettres à un absent, parce qu'il estimait que Gambetta laissait Paris livré à lui-même, et en partant en ballon, hein, le départ en ballon était justement quelque chose qui laissait les Parisiens livrés à eux-mêmes. Maintenant, je vous dis, il a des pages aussi très dures sur la répression des Versaillais.
Alors Isabelle Guignard, j'espère que vous n'aurez pas peur, comme vous avez eu peur quand vous étiez petite, parce qu'on va écouter là un petit peu des lettres de Montmoulin. Préparez-vous.
Mais j'ai grandi.
Mais ça reste terrifiant.
C'est terrifiant, les lettres de Montmoulin ?
Bah écoutez, c'est franchement, je pense que, bon, finalement, dans les contes de fées, généralement, les choses se terminent bien. Dans la chèvre de M. Seguin, ça se termine très mal. Et qui pisait, la chèvre sait très bien qu'elle va mourir. Et elle se bat quand même contre le loup, car elle sait que les loups mangent les chèvres. Bon, dans la mort du dauphin, je pense pas que vous aimeriez lire à vos enfants l'histoire d'un petit garçon qui va mourir. Dans l'Arlésienne, c'est l'histoire de quelqu'un qui se jette par la fenêtre et qui se suicide. Dans Les Deux Auberges, c'est l'histoire de quelqu'un qui est trompé par sa femme et qui finalement va sans doute aller étrangler sa femme. Un jour, en tout cas, s'il est suffisamment courageux pour
pourquoi
le faire.
Pourquoi on fait dire ça aux enfants alors ?
Pourquoi fait-on dire ça aux enfants ? Mais c'est une très bonne question.
C'est une très bonne question parce qu'à mon avis, c'est pas du tout fait pour les enfants. Et c'est le problème qu'on a nous. Depuis tout le temps, quand on veut diffuser Daudet, on nous demande sans arrêt de lire aux enfants, donc par le biais de comédiens, de lire aux enfants des lettres de Montmoulin et la chèvre de M. Seguin. Mais c'est très difficile.
On va écouter un extrait de La Mule du Pape par Fernandel.
De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence passement de leur discours, je n'en sais pas un plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À 15 lieues autour de Montmoulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « Cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape, qui garde 7 ans son goût de pied. » J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir. Ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant 7 ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet. Pas même Français Mamaï, mon joueur de fifre, qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Français pense comme moi qu'il y a là-dessous quelques anciennes chroniques du pays d'Avignon, mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. « Vous ne trouverez cela qu'à la bibliothèque des cigales », m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne, et comme la bibliothèque des cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer pendant 8 jours.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Simone Dufief, qu'est-ce que vous retenez de cet extrait ?
La bonne humeur. Je crois que c'est la bonne humeur et le bien-dire. Hein ? Alors, évidemment, c'est une fantaisie absolue, puisqu'il n'y a absolument aucun proverbe provençal qui évoque l'idée de la rancune d'une quelconque mule du pape. Ce conte n'est en rien provençal dans sa réalité, hein, qui ne serait pas le cas, par exemple, du curé de Cucugnan, qui lui est une traduction d'un conte provençal.
Pour vous, ce qui compte le plus, c'est les romans ou c'est les lettres de Montmoulin. Vous dites que pour vous, Daudet, c'est quand même d'abord un très grand romancier.
C'est vrai que c'est un très grand romancier. C'est un romancier qui commence à être remis à sa place par les universitaires, alors qu'il avait été écarté. Enfin, non pas qu'il ait été victime d'une omerta particulière, mais Zola non plus n'avait pas été beaucoup étudié avant, disons, la deuxième moitié du XXe siècle. Mais je pense quand même, quelles que soient les qualités romanciers de Daudet, quel que soit le plaisir qu'on puisse trouver à lire les romans de Daudet, je pense que c'est évident pour tous ceux qui les ont lus. Je pense quand même que Les Lettres de mon Moulin sont, si vous voulez, une œuvre qui est l'œuvre de cœur des gens qui l'ont lue, parce qu'elle rappelle l'enfance, parce que la langue, on est extraordinaire. C'est presque de la, enfin, à Villemessant, il écrit « Ne m'envoyez pas un Richelet, le Richelet c'est le dictionnaire de rimes, je n'en ai pas besoin, j'écris des poèmes en prose. » Et je crois que, si vous voulez, on est sur une logique qui est une logique fortement poétique. Ce sont des textes qui sont globalement très poétiques, donc c'est évidemment, c'est une langue magnifique et qui parle beaucoup.
Mais certains lecteurs de Daudet vont considérer que des écrits moins connus comme la Doulou, par exemple, dans les Carnets intimes, ce qu'il dit de la Doulou c'est la douleur de sa maladie dans les dernières années de sa vie, sont plus intéressants que Le Petit Chose, par exemple. Sur ce texte-là, sur ces Carnets intimes, est-ce qu'on ne touche pas à quelque chose de plus profond d'Alphonse Daudet ?
Bien sûr, La Doulou est un texte extraordinaire. Enfin, quand on a lu La Doulou, on comprend beaucoup de choses et c'est vraiment un témoignage déchirant. Hein. C'est très, très intéressant parce que c'est un témoignage où finalement quelqu'un est capable de se dédoubler. Et je pense que ça, c'est le côté très diplopique de Daudet, et de se dédoubler et d'exprimer des choses que d'habitude, on a du mal à exprimer parce qu'elles sont ressenties mais pas exprimées. Donc, si vous voulez, il y a cet effort de donner une forme à quelque chose qui est ressenti et qui est de l'ordre de l'indicible, hein, puisqu'il faut regarder la mort, il faut surtout regarder la peur de devenir fou et gâteux, qui évidemment habite l'écrivain à ce moment-là, le scripteur du journal intime. Et donc, à ce moment-là, oui, c'est un texte très fort. Alors, est-ce que la vérité sur soi, on l'atteint par la fiction ou par le témoignage ? C'est une grande question. Julien Green, par exemple, disait que finalement, pour savoir la vérité sur soi, il n'y a pas d'autre moyen que d'écrire un roman. On pourrait revenir à des interprétations freudiennes. Hein, finalement, un certain nombre de motifs récurrents, un certain nombre de thèmes, un certain nombre, une façon de mettre certaines choses en fiction sont peut-être aussi très éclairants. Alors, Le Petit Chose est peut-être aussi très éclairant. Il me semble qu'il y a des éléments très éclairants dans Le Petit Chose. C'est par exemple l'humiliation ressentie par l'enfant. Et ça, c'est un élément qui, certainement, est une clé pour comprendre aussi la personnalité de Daudet.
Est-ce que c'est une vie heureuse, la vie de Daudet ? On sait qu'il ne se plaignait jamais, y compris quand, dans les dernières années, il était en effet très malade et qu'il devait dicter ce qu'il ne pouvait plus écrire. Il y avait une force de vie, quand même, chez Alphonse Daudet ?
Oui, il y avait un très grand vitalisme, une très grande vitalité. Il admirait beaucoup Balzac, qui lui aussi a beaucoup souffert et qui a donc écrit cette phrase merveilleuse, hein, « Je fais partie de l'opposition qui s'appelle la vie ». Et je pense que Daudet aurait pu la prendre, la faire sienne. D'ailleurs, il l'écrit « Je ne sais qu'une seule chose dans la douleur, je ne sais qu'une seule chose à dire à mes enfants, et c'est dur, déchiré de douleur comme je suis, c'est vive la vie ». Et je pense qu'il y a un goût de la vie, un goût du bonheur intense chez Daudet. Mais évidemment, il y a des grandes réussites. Je pense qu'il a été très heureux d'avoir été un écrivain et finalement d'avoir été approuvé par un certain nombre de gens à l'opinion de qui il tenait. En particulier, je pense à l'opinion de Goncourt, à l'opinion de Zola. Il était heureux d'être reconnu par ses pairs. Il était heureux d'être lu par un très grand public, car il aimait la communication avec autrui. C'est un conteur aussi, hein, donc il aimait beaucoup cette communication avec autrui. Ça, il en a été très heureux. On en a de nombreux témoignages. Et puis, il a été très heureux de son mariage et de sa famille, car c'était quelqu'un qui, effectivement, avait cette espèce de traste à l'origine. Ma famille a été dispersée, il faut que je reconstitue la famille, le foyer. Hein. Et ça, vous voyez, vous me dites, dans Le Petit Chose, il y a cette volonté de réparer une famille cassée.
Et puis Isabelle Guignard, il était sans doute heureux de vivre ici dans cette maison, de faire des parties de canotage sur la Seine un peu plus bas, de se promener dans le parc qu'on voit ici depuis la fenêtre, parce qu'il y avait un vrai amour de la campagne et de la nature qui sans doute vous a aussi plu quand vous avez acheté cette maison. On peut aujourd'hui venir la visiter seulement sur rendez-vous. On peut visiter le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans cette maison ?
Nous, on essaye de poursuivre l'état d'esprit qui régnait du temps d'Alphonse Daudet, qui était quand même un lieu de rencontre entre artistes, avec des artistes.
C'est surtout un lieu de rencontre, c'est ça.
Voilà, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, ça, c'est ce qui nous intéresse. Et puis aussi, c'était... c'était un endroit, une villégiature tranquille, à la campagne, un peu protégée. C'est ce qu'on essaye aussi de perpétuer.
Et vous faites des confitures, là, il y a des tas de pots de confitures.
Absolument. Voilà. Donc, nous, on a une partie, on a juste une partie du terrain, hein, qui, on a la maison, une partie du terrain. Donc, on s'emploie à restaurer la maison. Ça fait 25, 30 ans qu'on fait ça. Et à restaurer aussi son âme, parce que pendant un moment, à peine si on savait que c'était la maison d'Alphonse Daudet. Pourtant, ici est passé énormément de choses, énormément d'hôtes sont venus. Beaucoup de lignes ont été écrites sur cette maison, même des paroles de chansons et le roman La Petite Paroisse. Donc, nous, on s'emploie à ça et on s'emploie à la faire vivre avec des artistes. On a des artistes en résidence.
Merci beaucoup à vous deux, Anne-Simone Dufièvre. Je rappelle que l'on peut trouver les œuvres de Daudet dans votre édition chez Omnibus. Et puis, vous êtes également l'auteur de Alphonse Daudet, romancier, une biographie parue en 1997 chez Honoré Champion. Merci également à vous, Isabelle Guignard. Vous êtes la propriétaire de cette maison et vous l'animez avec notamment des résidences d'artistes. Tout de suite sur France Culture, c'est la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour. Il faut avoir un écran plat, un ventre pareil. Bientôt la terre aussi va redevenir plate. Et les femmes enceintes seront l'exception, avec les ballons de football gonflés à bloc. Plat comme une autoroute, une rivière bétonnée, les carpettes incapables de jamais protester, les conversations sans sel, sans joie, sans fin. Mais encore et cette fois, plus heureusement, plat comme les sols, les limandes, les raies, les plages grises que l'on arpenterait, à pince ou à vélo, gaiement avant d'aller s'offrir le plat du jour, cuisiné avec plaisir, avec amour, servi par la patronne aux pieds cambrés. C'était un poème de Valérie Rousseau, à sens inverse, c'est le titre de son dernier livre. Le poème suivant n'est pas sur les abeilles, mais... en sens inverse, sur les pétitions. Sauveront-elles un jour vraiment les insectes ou se contentent-elles d'ajouter au vacarme? Bzzz. Le mieux serait de se retrouver à 17h et d'aller casser la gueule pour de bon à tous les tueurs d'abeilles. Non? Vous êtes d'accord? Saignez plus fort. Saignez. Signez quand même. Si quand les abeilles font le buzz, c'est qu'elles menacent de disparaître. On a raté la fleur des champs, l'insecte enivré de nectar, chercheur de calice et pollen. Le vacarme et les acouphènes donnent le bourdon à nos oreilles. Puisque c'est ça, tu gardes un peu de cire dedans tes écoutilles. Toi, ni running, ni cocooning, signe à tour de bras pétition. Oula, running, cocooning, attention l'engolé, le franglish mal tourné. Pour correction, un poème adressé à Alain Borère par l'auteur. Courriel, pourriel, correspondance, un cadeau par jour à gagner si le passé se décompose. Le présent simple est facturé en boîte aux lettres messagerie via voie postale électronique. Et le futur, ton postérieur, ses promesses de gros lots gratuits jusque sur la boîte de cellophane. Baleine aussi bleue que naguère, la mer, la Méditerranée. Suite à quoi, tout doit disparaître. C'est une citation de François de Cornière. Benoîte des ruisseaux, épilobe velu, chèvrefeuille des bois, grassette ou langue d'oie, renouée, amphibie, mêle empire des prés, morel, douce amère, lavande à toupée, anémone, sylvie, garance voyageuse, genêt à balai, mercurial, vivace, mouron des oiseaux, myosotis des champs, massette à feuilles larges, petite centaurée, scabieuse mort du diable, vipérine vulgaire, ombilique rupestre, prime vert élevé, herbe à l'épervier, lion dent d'automne, campanule gantelée, chicorée sauvage, purgrane rampante, bardane mineure, arôme tacheté, liseron épineux. On laisse passer un souffle, le souffle de la poésie. Enfin, devant la beauté pure et dure du monde, je m'envisage tête nue, au clair de lune, au grand soleil, sans confession, tout est donné. Les étoffes continuent comme si elles nous aimaient. Peut-être que les astres se moquent éperdument de nos affaires humaines, nos amours et nos guerres, nos joies et nos terreurs, nos oiseaux disparus, nos abeilles qui meurent ne trouvent plus les fleurs. Qu'allons-nous devenir avant que tout s'achève? Il va falloir chanter à la barbe de l'horreur, il va falloir danser sous petit et grand ours, grand et petit chariot, bien mieux que les autos, comme de bonnes casseroles et de bonnes volontés.
Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Valérie Rouzeau.